Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Après-demain, jeudi 19, Franck Ferrand répondra en direct de 15h30 à 16h30 aux questions que vous pourrez lui poser via Twitter avec le hashtag Ferrand Live. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Ferrand Live, c'est-à-dire qu'on fait l'espèce de dièse là.
Exactement, puis... le hashtag.
Bon voilà, mais c'est une bonne chose que nous puissions comme cela dialoguer via Twitter.
Et en attendant aujourd'hui, c'est le romancier Gilbert Sinoué qui est votre invité.
Gilbert Sinoué est né au Caire. Il nous parle aujourd'hui d'une Égypte qu'il connaît très bien et qu'il a bien connue, en l'occurrence celle de Nasser. Moi, je vous propose, à titre de préambule, de revenir sur l'incroyable destin du Raïs égyptien.
Et en ce 17 mars, jour de la Saint-Patrick, vous répondrez à la question de Pierre sur la fête de tous les Irlandais.
Les Irlandais que nous saluons du fond du cœur. Pour le moment, ce ne sont pas les brumes du Nord-Ouest qui nous attendent, mais plutôt la chaleur venteuse du Sud-Est égyptien.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
L'ouvrage de Gilbert Sinoué s'appelle « L'aigle égyptien » et nous verrons pourquoi l'aigle dans quelques instants. Voici ce qu'il écrit, voici ce que Gilbert Sinoué écrit à propos de Nasser. « La vie du personnage, nous dit-il, apparaît comme une percée fulgurante stoppée par l'épuisement. Mais n'en doutons pas, entre sa part d'ombre et de lumière, il aura été le dernier grand dirigeant arabe, le seul qui tenta de rappeler à ses frères qu'ils étaient forts et que leur seule faiblesse résidait dans l'ignorance de leur force. Un message, hélas, guère entendu, dans un univers politique dominé par la corruption, il fut d'une intégrité exemplaire. Ça, c'est suffisamment rare pour être souligné, en effet. Ni lui, ni les siens ne se sont enrichis au cours de ces 14 années de présidence, conclut Gilbert Sinoué. Aujourd'hui, on peut dire que l'ancien chef d'État reste très présent en Égypte. Ne parlons même pas du nombre de monuments, de rues, d'avenues, etc. qui lui sont dédiés. À chaque fois que l'Égypte traverse une crise depuis quelques années, c'est malheureusement monnaie courante, l'image de Nasser est là qui ressort. Nasser était un tel facteur d'équilibre, a écrit Jean Daniel. Il avait une habileté si exceptionnelle pour suspendre les problèmes les plus explosifs. Nasser était devenu irremplaçable. Il a été néanmoins remplacé, à moins qu'il ne l'ait justement pas été. C'est une des questions que je poserai tout à l'heure à notre invité. Vous savez, comme la plupart des grands leaders du XXe siècle, Nasser était d'origine modeste. On peut peut-être revenir sur les origines de Gamal Abdel Nasser, origine paysanne en fait. Il est né dans une petite famille assez modeste dans un village de la Haute-Égypte. Son père était fonctionnaire dans l'administration des postes et télégraphes. À 8 ans, il a perdu sa mère. Ça, c'est un événement très, très marquant de son enfance. Il a été... définitivement marqué. On verra jusqu'où ça le poursuivra, du reste. Il vit chez son oncle et il va suivre ses études au Caire, puis à Alexandrie. Il finit par intégrer les armes. Ça, c'est assez extraordinaire parce que bien sûr que ses origines modestes s'opposaient, a priori, à une véritable carrière militaire. Et pourtant, Nasser va intégrer l'académie militaire en 1937. Et en même temps, il se lance dans la politique. C'est comme si, du reste, chez lui, cet engagement officiel et professionnel dans l'armée et cet engagement beaucoup plus essentiel dans la politique ne faisait qu'un. On verra jusqu'où, là encore, ça ne faisait qu'un. En tant qu'étudiant, il a participé à toutes sortes de manifestations contre la présence britannique. C'est la grande question à l'époque, il ne faut pas l'oublier. En 1935 déjà, il parle de la nécessité pour l'Égypte de trouver un chef qui puisse réveiller ces malheureux plongés dans l'inconscience. Il parle de ses compatriotes, bien entendu. Il faut vous dire que à l'époque, l'Égypte, évidemment, est une monarchie. C'est le roi Farouk. Le roi Farouk a beaucoup crispé un certain nombre nombre d'Égyptiens, notamment tous les nationalistes, disons, lorsqu'il a, en août 1936, donné la gestion du canal de Suez aux Britanniques. Il la leur a donnée pour 20 ans. C'est très important, ça, parce que 1936 plus 20 ans, ça nous amène à la célèbre crise qui sera l'essentiel, qui sera le cœur de la carrière de Nasser en 1956. D'une façon générale, on peut dire que autour du roi, les conseillers anglais sont extrêmement présents, ils sont pas très discrets. Ça fait très longtemps que les Britanniques exaspèrent la population égyptienne, pour tout vous dire. Et les Égyptiens, qui ont toujours été indépendants, malgré cette présence, malgré ce protectorat, etc., se demandent quelle est l'effectivité de cette indépendance. Les gouvernements vont se succéder au gré des intérêts britanniques en Égypte. On peut dire que le pays subit les dégâts occasionnés par le déclenchement de la nouvelle guerre mondiale, bien entendu. Le Caire, à l'époque, est un véritable nid d'espions, n'est-ce pas, sans mauvais jeu de mots. Des espions anglais, mais aussi allemands. Chacun tente les uns de garder Farouk dans leur camp, les autres de l'attirer dans le leur. On se demande un peu si tous ces efforts ont la moindre influence, puisque Farouk, faut imaginer ce roi plein d'embonpoint, n'est-ce pas, qui continue à mener pleinement sa vie fastueuse. Et vous savez qu'on dit que même au cœur de la guerre, lorsqu'il n'y a plus du tout de lumière au Caire, lui continue de faire illuminer ses palais et ses jardins. Donc tout ça fait scandale, bien entendu. Il multiplie les voyages en Europe. Tout ça suscite de la colère, évidemment. Officiellement, Farouk est neutre durant la guerre. Il semble néanmoins afficher quelques affinités avec les Allemands. C'est peut-être un moyen de se concilier les bonnes grâces de certains. Il y aura cette brève occupation italienne sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir. D'une façon générale, on se demande en Égypte s'il n'y aurait pas, avec les Allemands et avec les Italiens, il ne faut pas oublier que les grands chefs de l'Axe sont là, aux frontières. Ils sont en Tripolitaine, ils sont en Libye, Rommel, Graziani, ils sont prêts à intervenir. Et on se demande en Égypte si ça ne libérerait peut-être pas l'Égypte de la tutelle britannique. Le roi Farouk est de plus en plus impopulaire. Il faut vous dire que juste après la guerre, les prix des denrées alimentaires ont atteint des sommets. Il y a quand même une augmentation des prix de 400%, alors que les salaires, eux, n'ont augmenté environ que de 200%. Une hausse du chômage considérable, toujours ces Britanniques-là très présents. Ça va créer tout ça, des émeutes, des violences. En janvier 1952, on voit des attentats anti-britanniques éclater un peu partout. Ces attentats vont se multiplier avec le fameux Samedi noir, où des émeutes secouent le Caire. La police ne fait rien. Le roi, qui ce soir-là est en train d'offrir à ses officiers un banquet de 600 couverts, n'intervient pas. Évidemment, ça ne donne pas envie de le suivre, ce roi. Or, il y a dans l'ombre, dans la pénombre, un certain nombre d'officiers qui commencent à s'agiter et qui commencent à s'agiter autour de Nasser.
Mozart l'Égyptien par Hugues de Courson sur Europe 1. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur l'homme d'État égyptien Nasser.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'homme d'État Nasser.
Il y a ce bouillonnement pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale. Il va y avoir l'événement, on en parlait à l'instant avec Gilbert Sinoué, l'événement marquant et déterminant du grand incendie du Caire. On en reparlera, on reprendra notre discussion sur cet événement, justement, tout à l'heure avec Gilbert Sinoué. Et on voit fleurir un peu partout des groupes nationalistes. Alors il y a le WAFT, qui est le principal mouvement, en quelque sorte, et puis toutes sortes de groupuscules, si je puis dire. Alors il y a un personnage qui est très étonnant et qui apparaît tôt dans l'ouvrage de Gilbert Sinoué, c'est Sadat. Anwar el Sadat, sur lequel on aura l'occasion de revenir, et qui a été, pendant la guerre, incroyablement proche des Allemands, en l'occurrence. C'était un moyen de très radical, c'est le moins qu'on puisse dire, de se libérer de la tutelle britannique. Et puis, donc, ce mouvement des officiers libres, un réseau clandestin qui est fondé en 1949 par Nasser. Il y a 5 comités, un pour les finances, un pour la sécurité, un autre pour la propagande, l'armement, les groupes de choc. Quel est leur but à ces groupes de choc? On verra. En tout cas, l'ambition de ces militaires, l'ambition de ces officiers libres, c'est de renverser le roi Farouk et de mettre un terme à cette espèce de domination totale de la part des Britanniques. Ce sont des officiers qui ne sont pas très nombreux. Au total, ils sont quelques dizaines autour de Nasser. Ils sont relativement jeunes puisque leur moyenne d'âge est de 35 ans. Et justement, comme ils se disent que jamais le peuple égyptien ne suivrait d'aussi jeunes gens, hein, on est habitué en Égypte à être gouverné par des gens mûrs, voire très mûrs, ils vont jeter leur dévolu sur Mohamed Neguib est un peu celui qu'ils mettent en avant pour incarner leurs ambitions. Un homme intègre, excellent soldat, bon père de famille, très populaire dans l'armée. Il faut dire qu'il est très souriant, Neguib. C'est un homme qui est plein de sollicitude. Il accepte la proposition donc de cette organisation des officiers libres et le roi Farouk bientôt n'aura pas le choix. Il sera obligé d'abdiquer. En faveur, enfin en tout cas officiellement, vous savez comment ça se passe, la déposition de tous les souverains, il abdique en faveur de son fils âgé de 6 mois. Évidemment, Neguib n'est pas le véritable homme fort de la révolution qui s'installe. Au contraire, il n'est en vérité qu'une marionnette dans les mains de Nasser. Alors il faut peut-être revenir sur la prise de pouvoir elle-même. On est le 22 juillet 1952, il est 5h du matin, lorsque le comité central donc de ce groupe des officiers libres mobilise les troupes. Le coup d'État a été fixé pour minuit. Le mot de passe d'ailleurs c'est Nasr qui veut dire la victoire. Ça n'est évidemment pas un hasard. L'auteur, celui qui organise tout ça, c'est Nasser. La prise de pouvoir doit se faire en 3 temps. Mainmise sur le commandement militaire dans un premier temps. Conquête du pouvoir civil et puis quand tout ça sera en main, déposition du roi. Dans la nuit du 22 au 23 juillet 1952, un dernier briefing a lieu aux alentours de 22h. Le complot est découvert à 23h. Et aussitôt, au grand quartier général, on réunit un conseil de guerre. Nasser se réjouit. Au lieu de les capturer un à un, se dit-il, eh bien, nous pourrons les prendre tous ensemble. Le QG des officiers libres est pris d'assaut par une compagnie de l'armée. Il faut imaginer des échanges de coups de feu. Le chef des assaillants se range finalement du côté des officiers libres. L'un des leaders des officiers libres, qui s'appelle Abderrahim Amer, prend le commandement du détachement et retourne au grand quartier général de l'armée. Et là, chose assez extraordinaire et qui donne une idée de l'état de déliquescence générale d'un régime qui était vraiment à bout de souffle, c'est que les officiers, les généraux qui sont là ne réagissent pas. On se rend à minuit, les troupes des officiers libres prennent les points stratégiques de la capitale. Alors c'est toujours un peu les mêmes points. On commence par se rendre maître des réseaux, enfin du central téléphonique, les bâtiments publics principaux et le siège de la radiodiffusion, bien entendu. À 5h, le général Neguib, qui dormait, est prié de rejoindre tout le monde au QG. Il découvre la situation. Il dit « À la bonne heure, je vous félicite mes enfants, vous avez fait du bon travail ». Voilà ce que dit Neguib, ou Naguib, comme écrit d'ailleurs Gilbert Sinoué dans son livre. À 7h, il est nommé commandant en chef des forces armées. On lit à la radio un manifeste. Les Égyptiens vont laisser éclater leur joie. C'est l'armée qui vient de prendre le pouvoir. On est bien dans un cas de coup d'État militaire et révolutionnaire. Ça pourrait être l'inquiétude. C'est en vérité le soulagement qui s'empare de la population. Les Britanniques sont là, bien entendu, même s'ils ne sont pas nombreux. Ils ont depuis longtemps contrôlé tous les points clés, tous les éléments stratégiques du pays. Dans un premier temps, ils ne bronchent pas. Le roi va démissionner, là, très bientôt, le 24 juillet. Et du reste, la date du 23 juillet, celle de la prise du pouvoir, devient la fête nationale égyptienne.
Pour réagir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions, chers auditeurs. Il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Nous revenons à la vie de l'homme d'État Nasser avec vous, Franck Ferrand, dans un court instant sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'homme d'État Nasser et à son accession à la présidence de l'Égypte.
Alors, dans un premier temps, vous avez bien compris qu'il est, il n'est pas sur le devant de la scène, Nasser. Hein. C'est ce bon général Naguib qui dirige le pays, avec pour objectif l'évacuation du territoire national par l'Empire britannique. C'est ça quand même qui anime tous ces gens à l'époque. Et puis, il s'agit aussi de modifier la structure du pouvoir en vue de fonder une Égypte qui soit plus moderne, plus indépendante, une Égypte industrialisée. C'était l'ambition personnelle de Nasser. Alors, la première chose à faire, c'est la réforme agraire. Il faut vous dire que il y a énormément, l'agriculture égyptienne se caractérise par des cultures intensives dans les trois vallées du Nil. Ça fait quelques millénaires que ça dure, n'est-ce pas? Et évidemment, la question est de savoir à qui vont appartenir les terres. En 50 ans, la superficie cultivée a augmenté à l'époque seulement de 16%, tandis que la population, elle, avait complètement doublé. L'agriculture n'est plus suffisante. Les propriétaires sont obligés de louer la terre à des intermédiaires qui eux-mêmes la sous-louent au prix fort à de petits cultivateurs. Et en 1952, vous avez seulement 250 personnes qui détiennent près de 600 000 fédanes. C'est-à-dire, un fédane, c'est 4200 m2. Hein, donc, ce sont des superficies, des propriétés gigantesques. La plupart des paysans, de leur côté, n'ont qu'un tout petit, on va dire, un lopin de terre. Et il y en a 8 millions qui, carrément, ne possèdent rien du tout. Eh bien, que va-t-on faire? Ça, c'est la limite de la surface que vous avez le droit de posséder, qui va être de 200 fédanes. Toutes les terres au-delà de 200 vont être confisquées. On s'attaque donc à la grande propriété pour essayer de redistribuer le plus possible à la paysannerie moyenne. Le loyer des terres est réglementé. Et on en profite pour réglementer également le salaire des ouvriers agricoles qui est nettement revalorisé. Pour Nasser, cette réforme doit permettre de donner une assise économique et sociale, ce qui est fondamental, parce qu'il ne s'agit pas seulement de rendre les choses plus opératoires, plus efficaces, il s'agit aussi de s'assurer l'adhésion de la population, bien entendu. Alors on fait donner, vous savez, le chef de l'État sert un peu, on lui donne les discours qu'il doit lire. Hein. Alors on lui fait dire, la réforme agraire doit permettre de réduire le fossé entre les classes, d'améliorer le niveau de vie des paysans et de diriger le capital vers les investissements industriels. N'oubliez pas à quelle époque on est, dans ces débuts des années 1950, où le mouvement des non-alignés, même s'il se prétend indépendant et des deux superpuissances, lorgne quand même considérablement du côté de ce qui se passe en Union soviétique. Voilà ce qu'écrit Gilbert Sinoué dans L'Aigle égyptien. Les officiers libres avaient besoin d'un succès rapide et facile pour s'imposer au pays. Et bien sûr, dans la mesure où ces officiers libres et leurs alliés civils pouvaient partager l'opinion générale selon laquelle les inégalités dans les campagnes étaient trop criantes, ils ont pu vouloir agir tout simplement pour redresser la situation. Il n'est pas exclu non plus que la tendance générale dans le monde en faveur des réformes agraires ait joué un rôle, parce que je vous parle de l'Union soviétique, mais d'une façon générale, on est en train, dans le monde entier, songez à ce qui se passe dans la toute nouvelle République communiste chinoise, on est en train dans le monde entier de réformer complètement la façon de cultiver et surtout la propriété, le régime de propriété des terres. Le résultat de tout ça, ça va être évidemment beaucoup de violence à l'encontre de l'aristocratie terrienne. On va monter le peuple même contre un certain nombre de propriétaires. On raconte toujours l'histoire de ce fils de grand propriétaire terrien qui avait refusé d'appliquer la nouvelle loi et qui avait été jusqu'à lâcher ses chiens contre les géomètres qui étaient venus mesurer les fameux 200 fédanes, vous savez. Alors le malheureux a été enchaîné, condamné aux travaux forcés, etc. La loi est votée le 9 septembre 1952, c'est-à-dire avant même la proclamation de cette république dont Naguib est le nouveau président. Nasser est premier ministre adjoint En vérité, c'est lui le maître de l'exécutif avec le titre de vice-président du Conseil et de ministre de l'Intérieur, ce qui est absolument essentiel, bien entendu. Je trouve très intéressante cette attitude de Nasser qui consiste, alors qu'il a entre les mains toutes les manettes du pouvoir, qui consiste à se mettre un peu en retrait. Les grandes affaires, c'est-à-dire la nationalisation du canal de Suez, c'est-à-dire le développement du mouvement des non-alignés avec Nehru, avec Tito, etc. Et puis, bien entendu, plus tard, la création de la République arabe unie sont à venir. Pour mener à bien toutes ces grandes affaires, il faudra que Nasser soit lui-même à la tête de l'État. Bonjour Gilbert Sinoué.
Bonjour Franck Ferrand.
Je vous ai déjà pas mal cité depuis le début de cette émission. Vous avez énormément de choses à nous raconter, y compris des souvenirs personnels. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est Nasser qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Gilbert Sinoué, écrivain, auteur de L'Aigle égyptien Nasser aux éditions Talendier.
Je parlais de souvenirs personnels, Gilbert Sinoué. Évidemment, vous avez connu cette Égypte-là, vous.
Ah oui, absolument.
Nasser est mort en 1970, hein, il faut dire, d'une crise cardiaque.
En fait, il était mort virtuellement en 67, après la défaite de la fameuse terrible guerre des six jours. Mais oui, il est mort en 70, diabétique, faut le préciser, très mauvaise santé, déjà deux infarctus, et enfin, le second l'a achevé.
Il avait déclaré au New York Times quelques mois avant de mourir « Je n'ai pas de rêve personnel », c'était la question de la journaliste « Je n'ai pas de rêve personnel, je n'ai pas de vie personnelle, je n'ai rien de personnel. Mon rêve, c'est tout d'abord le développement du pays, l'électricité dans les villages et du travail pour tous les hommes. » Ça, c'est quand même, c'est un peu pour la façade. Est-ce que c'était aussi vrai que
Écoutez,
ça
vous savez, depuis que j'ai écrit ce livre, je reçois énormément de courriers. Le personnage...
Nous en recevons aussi, hein, pour tout vous dire.
Extrêmement controversé.
Très.
Soit par la bourgeoisie qui a vécu au Caire et qui a été d'une certaine manière décimée par Nasser, soit par les frères musulmans, il y en a beaucoup. Donc le personnage est très complexe, infiniment complexe. Moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a eu en fait deux Nasser. Il n'y a pas eu que le terrible dictateur dont Guy Mollet voulait la peau et Anthony Eden. Il y a eu au départ un jeune homme, un jeune étudiant, d'une famille modeste, comme vous l'avez souligné, extrêmement taciturne. C'est pas le genre de bonhomme à qui on tape sur le ventre. Il ne rigole pas beaucoup. C'est un personnage qui, très jeune, va se passionner pour l'histoire du monde. Effectivement, il va lire des tas de biographies. Il va penser aussi à De Gaulle, il va penser à Churchill, il va penser à Atatürk et tous ces grands hommes. Il est passionné et il est absolument obsédé par l'idée de libérer son pays de la tutelle britannique. Il faut préciser que les Britanniques occupent l'Égypte depuis 70 ans. Donc c'est ça le rêve au départ de ce jeune homme. On ne va pas aller au-delà déjà de cette idée. Il veut rendre aussi à l'Égypte sa fierté. Et à travers l'Égypte, à tout le monde arabe. Ça, c'est le mécanisme premier de celui que j'appelle l'homme de la lumière. Après, on parlera évidemment de l'homme des ténèbres.
Voilà. Alors, parlons un peu de la lumière pour l'instant. C'est une bonne façon, d'ailleurs, de diviser notre conversation, si vous le voulez. Cet homme de la lumière, en quelque sorte, va complètement bouleverser son pays et il va faire avancer l'Égypte à marche forcée, il faut le dire. Ses ambitions sont immenses. On a toujours l'exemple du barrage d'Assouan comme à l'esprit, mais il faut peut-être donner la mesure des grandes réformes lancées par Nasser.
Il a très vite compris que ce pays devait s'industrialiser. À l'époque, dans les années 50, tout est pratiquement importé sauf le coton. Le canal de Suez, l'Égypte n'en voit pas les revenus. Il tombe dans l'escarcelle anglo-saxonne et chez les Français. Donc il veut industrialiser son pays, il veut le mener vers le monde moderne. En fait, il va vouloir créer une Égypte moderne, pas uniquement agricole. Ça, c'est son but premier. Et évidemment, son rêve, c'est... On peut en sourire, mais quand il fait partie du mouvement des non-alignés, il ne veut pas au départ appartenir ni au bloc soviétique, ni au bloc américain. Et je crois...
On peut en sourire parce que ça finira quand même un peu dans...
Oui, mais je crois, Franck, que le mécanisme, l'attitude américaine, l'attitude anglo-saxonne, l'attitude de la France a fabriqué un Nasser qu'elle a poussé insensiblement
dans les bras des soviétiques,
dans le camp soviétique. Au départ, quand vous lisez ces interviews, vous voyez très bien qu'il dit au départ, je n'avais pas d'a priori. J'adorais l'American Way of Life, j'adorais Sea Cherries. Il était pas, et en plus, il détestait les communistes. Faut pas oublier qu'il est musulman avant tout, Nasser. Et donc, dans l'esprit de l'islam, le communisme, ce sont des gens athées. Donc, de toute façon, l'homme, au départ, n'était pas préfabriqué pour devenir ce qu'il est devenu.
J'ai dit tout à l'heure qu'il avait gentiment poussé le pauvre général Naguib sur la touche. Comment ça s'est passé, cette éviction, d'ailleurs? En fait, le chef de l'État commençait à prendre des décisions autonomes.
Naguib était ce qu'on appelait le brave homme. Il parlait d'ailleurs plusieurs langues, le grec, le français très, très couramment, et l'italien. Et c'était un brave homme qui tentait de résoudre la quadrature du cercle. Voilà, il voulait faire plaisir à tout le monde, aux propriétaires terriens, aux Anglais, à l'opposition, etc. Et il n'était incapable de vouloir mécontenter qui que ce soit. Et ça exaspérait énormément ces jeunes officiers qui étaient bouillonnants et qui voulaient en finir et aller très vite. Donc, ils l'ont poussé vers la sortie de manière assez... Peu aimable, disons-nous. Il en est arrivé au point de haïr Nasser.
Et évidemment, le charisme, la personnalité, la vision même de Nasser ne pouvait que le propulser au sommet. Il a essayé pendant un temps de rester au deuxième plan, mais ça n'était pas possible. Il devient un des leaders de ce monde non aligné, avec l'Indien Nehru, avec le Yougoslave Tito. Évidemment, il y avait un petit peu Schoenheim, enfin là, est-ce qu'on peut parler de non-aligné, c'est une autre question. Je vous propose d'entendre d'ailleurs l'arrivée des leaders non-alignés, c'était sur l'antenne d'Europe 1. On est au micro de Pierre Molteni et c'était le 18 juillet 1956.
Il est exactement 15h maintenant, je me trouve à l'île de Vanga, qui est l'une des îles de l'archipel des Brioni, et j'assiste à l'arrivée d'une immense vedette blanche qui est décorée aux couleurs yougoslaves et indiennes. Indienne, c'est-à-dire jaune, blanche et vert, avec la roue d'Azaka au milieu. Et je vois arriver maintenant le Pandit Nehru. Je vois à sa droite le président Nasser et à sa gauche le maréchal Tito. Et voilà le président Tito qui s'avance. Il est vêtu de blanc et d'un panama blanc. Le Pandit Nehru porte une rose sur son gilet de mi-court. Il porte sa traditionnelle coiffure blanche et le colonel Nasser porte un costume gris, cravate grise. En ce moment, les trois hommes sourient pour les photographes et pour les reporters qui ont pu venir jusqu'ici à l'île de Vanga. Le président Tito fait un signe maintenant pour dire que les photos sont terminées. Les trois hommes sourient gentiment encore, échangent quelques paroles agréables et se prennent par le bras. Et maintenant, les trois hommes d'État vont passer devant nous.
Bravo.
Puis-je vous demander quelques mots, président Nasser?
Je ne parlais pas le français.
Aussi, vous parlez le français.
Well, I'm very glad of this interview. And I hope that our meeting will be helpful in understanding each other's view for the benefit of the humanity.
Merci. Le président Nasser nous a dit qu'il était très heureux de cette rencontre et dont il espérait les meilleurs résultats pour l'humanité et la paix.
Voilà, donc ce reportage sur l'antenne d'Europe 1, c'était le 18 juillet 1956 au micro de Pierre Molteni. Un joli document, en l'occurrence. Ouais. Vous savez qu'Europe 1 va bientôt avoir, à 60 ans, puisqu'on est, exactement même à 60 ans, et que nous sommes ravis à chaque fois que nous pouvons diffuser comme ça des archives qui nous permettent de nous replonger dans les premiers pas de la station. Alors, Nasser, à cette époque, est considéré comme un exemple, non seulement en Égypte même, mais dans l'ensemble des pays arabes autour. C'est ça qu'il faut dire aussi. C'est-à-dire qu'il va devenir un leader charismatique pour l'ensemble des pays arabes, enfin pour beaucoup d'entre eux en tout cas.
Ah, ça va devenir une idole, mais pas tout de suite. Je crois que c'est l'affaire de 1956 qui va le propulser au sommet. Et là, le petit colonel va devenir l'immense leader du monde arabe que nous connaissons. C'est lorsqu'il décide de nationaliser le canal de Suez et conclut son discours par ce fameux éclat de rire qui a retenti à travers le monde arabe. Et là, tout à coup, le monde arabe est absolument subjugué. N'oublions pas que nous sommes encore dans l'esprit colonial. Il y a l'Algérie. Bon. Et là, tout à coup, les peuples arabes se disent « Ah bon, l'un d'entre nous a pu lever la tête et dire à l'Occident « je ne veux plus ».
Alors l'Occident, en l'occurrence, va réagir par les voix de Londres et de Paris, mais aussi de Tel Aviv, du reste, parce que les Israéliens vont se joindre aux Britanniques et aux Français. Le Premier ministre britannique a des mots très durs contre Nasser.
Oui, il le compare à Hitler.
Il le taxe d'improvisation.
Absolument. Or, il se trompe. Il se trompe lourdement, c'est Anthony Eden. Il fait fausse route parce qu'il ignore que Nasser est un fabuleux joueur d'échecs. C'est sa passion, les échecs. Et Nasser a bien prémédité la nationalisation du canal de Suez. Il a tout mis en place, il a tout prévu. Il a prévu la réaction d'Israël, la réaction d'Occident, à quel moment elle allait avoir lieu. Donc Anthony Eden se plante, pour être direct.
Oui, il n'a pas compris surtout que ni les États-Unis ni l'Union soviétique n'allaient laisser faire les anciennes puissances coloniales. Il ne faut pas se tromper de super grand d'une certaine manière. On est passé dans l'après-Seconde Guerre mondiale.
Absolument. Là. L'Amérique tape du poing sur la table et elle renvoie l'Angleterre, la France, Israël à leur jouet en disant « il n'y a plus rien à voir, circulez, rentrez chez vous ». Et c'est ça qui va faire de Nasser le fameux le héros qui rentre dans l'histoire.
C'est un héros aux yeux de son propre peuple ?
C'est une idole, ça devient une idole, ça devient un personnage de contrôle. Mais il y a quelque chose qu'il faut préciser que les gens ne savent pas, c'est que jusqu'à Nasser, l'Égypte était gouvernée par une monarchie turque. C'était des descendants de Mohamed Ali, donc c'était des gens, le père de Farouk ne parlait pas l'arabe. Donc imaginez un pays qui est dirigé par un homme qui ne parle pas sa langue, alors que Nasser arrive au pouvoir, pour la première fois, c'est un Égyptien, c'est un enfant du peuple, et il leur parle dans leur langue. Ce qui explique aussi cette passion qui a mal été interprétée en Occident, c'était un coup de foudre entre un peuple et un homme.
Comment exerce-t-il le pouvoir ? On a bien compris de manière assez tyrannique, mais encore, quelle est l'organisation du pouvoir et quelle est sa pratique quotidienne chez Nasser ?
C'est ça le drame de Nasser. C'est ça malheureusement le drame de Nasser. C'est sa part de ténèbres, c'est que très vite, après l'échec de l'union avec la Syrie dans les années 60, il va devenir ce que moi j'appelle un paranoïaque total et le pays va basculer dans une dictature infâme, il n'y a pas d'autre mot, et ma famille et d'autres familles et le pays entier se retrouvent sous écoute. C'est une sorte de Stasi qui s'installe dans le pays. Chaque concierge, chaque serveur est un espion à la charge du gouvernement en puissance. Et c'est la répression. Ce sont des camps de concentration. Tous les communistes sont emprisonnés et ils dirigent le pays d'une main de fer. C'est une forme de stalinisme.
Alors attention Gilbert Sinoué, parce que là nous sommes déjà dans la part d'ombre. Nous y venons avec vous dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'homme d'État égyptien Nasser, avec votre invité Gilbert Sinoué, auteur de L'Aigle égyptien Nasser aux éditions Talendier, un sujet qui fait réagir nos auditeurs.
Oui, c'est Oum Kalsoum qu'on vient d'entendre, et oui. Si je comprends bien, d'après ce que nous dit Gilbert Sinoué, la chanson dure 2 heures, c'est ça? Donc on va être obligé d'interrompre là,
je
forcément,
pense.
Ben oui, évidemment. Alors beaucoup de messages, je ne peux pas tout lire. Alors il y a un peu les deux clans d'ennemis anti-Nasser, si je puis dire. César nous dit, parmi les familles expropriés ou expulsés d'Égypte, il y a eu celle de Claude François, dont le père travaillait au canal de Suez. Je me souviens, dit Anne-Marie, à quel point dans les années 1956, dans plusieurs salles de cinéma, au moment des actualités où l'on voyait la nationalisation du canal de Suez, Nasser se faisait siffler. Bah oui, ça évidemment que les Occidentaux, les Français en particulier, sifflaient. Évidemment. Nasser s'est-il inspiré, nous demande Oumit, de Mustafa Kemal Atatürk pour structurer son mouvement et sa politique? Est-ce qu'il y a une inspiration?
En tout cas, une inspiration laïque,
oui.
La même que chez Atatürk. On le voit lorsque les frères musulmans vont... Au départ, précisons que les frères musulmans, ils s'en approchent grâce à Sadat et il a l'intention de les mettre, si j'ose dire, dans le coup d'État. Et très vite, il va s'apercevoir, et les mémoires de Sadat sont absolument claires là-dessus, celles de Nasser aussi, puisqu'il a écrit pas mal de choses là-dessus, il a bien compris qu'on ne pouvait pas diriger un pays avec le Coran. C'était très clair dans l'attitude de Nasser, très clair dans l'attitude de Sadat et de leur rencontre, et il s'est dissocié des frères musulmans avant la Révolution.
On voit qu'il s'est dissocié parce que, si je comprends bien, il y a un certain nombre de fidèles des frères musulmans.
Sûrement.
Qui également l'attaquent de façon, alors là, encore bien plus frontale. Je ne vais pas lire toutes les réactions, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire est que la figure de Nasser est très loin de faire aujourd'hui l'unanimité. Qu'en est-il en Égypte même ?
Écoutez, comme on le dit, elle est très controversée, mais l'idée de ce livre m'est venue pourquoi ? Parce que tout simplement, quand il y a eu le printemps, appelons ça comme ça, égyptien, la deuxième révolution, celle qui a détrôné M. Morsi, on a vu fleurir des portraits de Nasser partout dans les manifestations. Et je me suis dit, mais c'est quand même étrange. Des années plus tard, 50 ans plus tard, il continue à soulever des passions. Donc c'est un personnage passionnel, que je trouve moi personnellement passionnant. Et comme tous ces personnages-là, évidemment, ils prêtent le flanc à toutes les critiques. Mais si on veut faire, c'est ce que l'on disait hors antenne, si on veut faire un travail d'historien, on ne peut pas ignorer les deux facettes de cet homme. Il y a le tyran, le despote, le dictateur, l'homme qui va conduire le pays au désastre. Et il y a eu l'homme politique, le leader, comme il n'y en a plus aujourd'hui dans le monde arabe. Qu'on le veuille ou pas, depuis Nasser, le monde arabe a perdu sa voix. On n'entend plus personne. Donc il faut lui reconnaître au moins ceci. Il a eu, en tout cas, il a essayé de redonner au monde arabe une unité, le fameux panarabisme. Il a échoué, mais en tout cas, ce fut son premier mouvement et on ne peut pas le nier.
En même temps, il a aussi travaillé, plus ou moins ouvertement, pour Moscou, pour l'Union soviétique. Ça aussi, ça fait partie des questions qui nous sont régulièrement posées aujourd'hui. Quelle a été son attitude réelle vis-à-vis de Moscou ? Est-ce qu'il a été la dupe des soviétiques ?
Vous savez, à partir du moment où c'était la fameuse époque de la guerre froide, les pays étaient des marionnettes entre les mains des Américains et des soviétiques. On a vu les Américains vouloir instaurer à un moment donné le fameux pacte de Bagdad, qui devait relier l'Irak, la Syrie, la Turquie, pour faire front à l'Union soviétique. Et l'Union soviétique aussi avait ses pions, et Nasser faisait partie des pions sur l'échiquier russe, c'est une évidence. Cela étant, je tiens à préciser qu'au départ, ce n'était pas son intention. Malheureusement, l'incompétence américaine a poussé Nasser dans les bras des soviétiques. On lui a refusé des armes, on lui a refusé l'argent pour construire son barrage, qui était absolument vital,
oui, vital, essentiel.
Essentiel.
Pierre angulaire de sa politique.
Absolument,
en fait, hein.
Et on lui a refusé dans des conditions extrêmement humiliantes. Il n'a plus eu le choix. Il avait besoin de blé, ce sont les Russes qui lui ont vendu. Finalement, les armes, ce sont les Russes, les Tchèques. Le haut barrage, ce sont les Russes. Et nous, on s'est retrouvés du jour au lendemain, alors que l'Égypte était, on ne peut plus, francophile, avec des balais russes
et, puis
et des balais chinois.
Les Américains, évidemment, soutenaient Israël. Il y a la terrible guerre de 1967.
Ça, c'est l'apothéose du désastre absolu dans laquelle l'Égypte s'est engouffrée à cause de Nasser. Et c'est une évidence et ça a été une véritable hécatombe, une humiliation sans nom, inqualifiable.
La guerre des six jours.
La fameuse guerre des six jours, oui.
Comment est-ce que Nasser est entré là-dedans ?
Écoutez, il y a les historiens qui en discutent encore aujourd'hui. Certains vous disent qu'il a été obligé d'y aller parce qu'il y avait constamment des affrontements à la frontière entre Israël et la Jordanie. Il y avait la résistance palestinienne et le roi de Jordanie, entre autres, Hussein, disait « Mais qu'est-ce que fait le grand leader du monde arabe ?»
La République arabe unie était totalement muette.
Muette.
Quand même, hein.
Alors, et là, il y a eu une pression énorme du monde arabe. Puisque l'Égypte était le grand leader, il fallait que l'Égypte réagisse. Et il s'est retrouvé en quelque sorte obligé d'y aller. À contre-cœur, il y a juste cette conversation qu'il a avec le chef d'État, le commandant-chef des forces militaires, à qui il dit « Je vais déclarer la guerre indirectement à Israël. Est-ce que notre armée est prête ? Es-tu sûr de toi ?» Et le maréchal Hammer lui répond « Nous avons l'armée la plus puissante du monde. » On a vu ce qu'il en est.
Oui, mais ça, il faut toujours faire attention aux chefs d'état-major quand ils sortent ce genre de choses. On a beaucoup d'exemples historiques, hein,
absolument.
Beaucoup de précédents. Ça a été le glas, ça, pour Nasser. Vous nous avez dit tout à l'heure, sa véritable mort, c'est au lendemain d'octobre 67, en fait.
Absolument, absolument. Et là, il va démissionner.
C'est juin, d'ailleurs, je dis octobre.
Juin 67,
oui, pardon.
Il va donc abandonner le pouvoir, faire son fameux discours... de démission. Alors d'aucuns vous diront c'est une blague, c'était tout a été fabriqué, c'est une comédie. D'autres vous diront, connaissant le peuple égyptien et son attachement pour Nasser, non, je crois qu'au départ il était tellement brisé qu'il a donné sa démission. Voilà, on l'a rappelé, il était sûrement ravi qu'on le rappelle.
C'est Sadat qui lui succédera.
C'est Sadat qui lui succédera, absolument.
C'est assez étrange lorsqu'on voit qui était Sadat dans votre ouvrage. On redécouvre, si je puis dire, un Sadat.
Sadat qui a raté la révolution parce qu'il avait oublié le mot de passe. Il est arrivé trop tard, la révolution était déjà achevée. Oui, et Sadat va prendre le contre-pied de Nasser ensuite et va rayer, gommer tout ce qui rappelle Nasser. D'ailleurs, la famille, je connais bien la fille de Nasser qui a malheureusement très mal vécu la période Sadat.
Alors, on avait dit qu'on parlerait de vos souvenirs personnels, et notamment, j'avais dit que nous commencerions par votre souvenir de l'incendie du Caire. On ne l'a pas fait, finalement, Gilbert Sounoué. Mot de cet événement qui nous ramène à
J'ai des flashs. Je suis né en 1947, donc est-ce que j'avais 6 ans. Mais je me souviens très bien, il y a des images qui vous marquent quand vous avez cet âge. Nous habitions un immeuble au centre du Caire, et on avait un concessionnaire de pneus Michelin dans cet immeuble. Et je me souviens de la fumée qui dégageait des pneus.
Et pour cause,
oui. On avait mis le feu à la boutique. C'était assez effrayant.
Vous aurez bien compris que l'ouvrage de Gilbert Sinoué, comme d'habitude, n'est pas manichéen. L'aigle égyptien, Nasser, c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup Gilbert Sinoué.
Merci Franck.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Pierre. Il nous l'envoyait via la page Facebook de l'émission et il aimerait connaître les origines de la Saint-Patrick, c'est aujourd'hui.
Eh bien, Saint-Patrick, c'est Saint-Patrick d'Irlande, bien entendu, qui s'appelait Mewin Sukat. C'était son vrai nom. Il est né dans les années 385-390 sur les côtes de l'Écosse actuelle, en vérité. Il n'a pas été très religieux dans son enfance. C'est plus tard qu'il rencontre Dieu dans des circonstances assez étonnantes parce que il a été enlevé par des pirates. Il a 16 ans à l'époque, le gamin. Il est vendu comme esclave à un druide irlandais qui en fait un berger. Et c'est comme ça qu'il va peu à peu se tourner vers Dieu. Il étudie la théologie. On va le voir côtoyer Germain l'Auxerrois notamment, qui l'accompagne dans ses missions, qui le recommande au pape Célestin Ier. On est là dans les années 430-435. Grande période d'évangélisation, évidemment. Alors, on doit beaucoup de choses à Patrick d'Irlande. Hein. On lui doit le fameux trèfle. On dit qu'un jour, lors d'un sermon au roc de Cachel, il aurait ramassé un trèfle et l'aurait comparé à la Sainte Trinité, à la fois unique mais comprenant trois feuilles. Ce sera, vous savez, bientôt le symbole de l'Irlande. On dit que c'est lui qui a chassé également tous les serpents d'Irlande, etc. Alors, on commence à fêter le saint dès le 9e siècle, mais il faudra attendre le début du 17e pour que le pape fasse du 17 mars, jour de la mort de Saint-Patrick, une fête. Ça devient le saint patron de l'Irlande, mais aussi du diocèse de Boston. Il y a tellement d'Irlandais à Boston. Et justement, c'est à Boston où vit cette communauté irlandaise que va naître la fête extraordinaire de la Saint-Patrick. Il faut attendre 1903 pour que le jour devienne férié, 1931 pour voir la première parade dans les rues de Dublin.